On va faire une lecture dans le livre de Daniel, chapitre 2 et verset 19. On va méditer simplement sur le fait de se tenir devant Dieu. Voilà. Daniel chapitre 2. Et verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Une vision, c'est pas un songe. La vision, ça veut dire que Daniel était réveillé. Il voit quelque chose. Un songe, c'est pendant que l'on dort. Parce que ce que je veux vous faire ressortir ce soir, c'est le fait de se tenir devant Dieu, y compris pendant les veilles de la nuit, le fait de veiller, eh bien, amène des choses importantes dans notre vie. Et dans cette soirée de jeûne et de prière, c'est un peu un temps de veille également. Alors avant d'arriver sur Daniel, on revient un petit peu en arrière. Moïse, Dieu l'appelle à monter près de lui, s'approcher de lui sur la montagne. Et là, Moïse ne verra passer ni les jours ni les heures. Il va veiller. Jour et nuit, va se tenir devant Dieu. Et Dieu va lui dire des choses extraordinaires, lui montrer de belles choses. Ce qui se passe en bas est complètement en décalage avec ce que Dieu montre à Moïse et à ce que Moïse vit. Et ça aussi, c'est un point particulier du fait où quand on se tient devant Dieu, on vit des choses décalées. C'est un peu comme si on était à l'écart du monde pendant un moment. Séparer des choses d'ici-bas pendant un moment qu'on va retrouver de toute façon. Mais pendant ce temps où on se tient devant Dieu, eh bien, on est en train de vivre des choses qui sont bien supérieures, bien plus glorieuses, qui restaurent notre âme, qui nous relèvent, qui nous restaurent, qui nous élèvent et qui nous font progresser dans la vie, dans le domaine spirituel. Et ensuite, quand ce temps devant Dieu s'achève, eh bien, on revient à la vie de tous les jours, hein, tout simplement. Autrement dit, si nous voulons que notre vie de tous les jours ne soit pas faite de banalité, il faut qu'on prenne du temps devant Dieu. Parce que c'est uniquement quand on passera du temps devant Dieu qu'on va sortir de notre réflexion séculière, de nos activités quotidiennes, et que l'on va vivre des choses belles. Parfois, des personnes disent, dans ma vie, il n'y a rien qui, d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Je pense que l'extraordinaire, il faut peut-être aller le chercher. Certains veulent vivre des choses extraordinaires, alors ils traversent le monde, ils vont gravir des montagnes, donc l'extraordinaire, ils vont le chercher dans un certain domaine, dans le domaine des exploits ou des expériences à vivre. Eh bien nous, dans le domaine spirituel, l'extraordinaire, si on ne va pas le chercher, on ne le vivra pas. Dieu veut le donner. Mais on le verra tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, l'ont vécu tous ceux qui avaient veillé, et qui avaient prié, et qui attendaient, qui étaient là. Sans distinction de personne, tout le monde a vécu des choses extraordinaires ce jour-là. Ils étaient 120, et 120 ont vécu de belles choses. Mais s'il n'y en avait eu que 119, eh bien, il y en a un qui aurait été à part de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que c'est à part à jamais, mais ça veut dire qu'il va falloir refaire le terrain perdu, reparcourir le terrain perdu. Moïse est sur la montagne, il vit de belles choses. Le peuple est en bas, il va finir par faire le veau d'or. Et c'est ça le décalage qu'il y aura. Entre un moment passé près de Dieu sur la montagne et le même moment, mais vécu sur la terre, plutôt en bas. Où là, on a beau être le peuple de Dieu, on a beau avoir vécu les miracles de la sortie de l'Égypte, donc des miracles dans notre vie, si on rapporte tout cela à notre dimension. On aura beau être ce peuple, on aura beau avoir vécu des miracles, on est rendu au quotidien, comme on dit aujourd'hui, le quotidien. Et au même endroit, au même moment, il y en a un qui est sur la montagne et il vit des choses extraordinaires. Alors c'est ce à quoi nous sommes appelés. Daniel se trouve dans un autre temps, dans d'autres circonstances et dans des situations qui ne sont vraiment pas évidentes. Et lui se tient devant Dieu et il prie. Et Dieu, au travers d'un songe, d'une vision, Dieu lui fait connaître les secrets cachés. Voilà. Et quand on se tient devant Dieu, on va faire des découvertes, on va découvrir des trésors dans la parole de Dieu. On va découvrir des choses dans nos vies. On va découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. On va découvrir la volonté de Dieu pour ce monde, pour le temps que nous sommes en train de vivre. Voilà. Daniel sera face à Nebuchadnezzar. Dieu va lui dire, Dieu va lui montrer. Daniel sera face à Darius. Dieu va lui dire, Dieu va lui montrer. Finalement, peu importe les situations et les personnes qu'on va rencontrer, le dénominateur commun, c'est de se tenir devant Dieu. Et indépendamment des lieux, des personnes et des époques, parce qu'entre Nebuchadnezzar et Darius, il y a quand même un certain temps qui s'écoule, eh bien, il va vivre des choses. Et il priait 3 fois par jour. On va le voir dans 6:10, Daniel 6:10. Ce serait peut-être bien de faire une petite statistique. On va pas demander de le dire à haute voix, mais combien de fois par jour prions-nous? Il y en a qui prient 3, on en connaît d'autres qui prient 5 fois par jour. Voilà. Et nous, les chrétiens, nous prions combien de fois par jour? Alors que personne ne dise, mais moi je prie tout le temps, c'est un peu trop facile ça. Voilà, un moment où on s'arrête, quelle que soit la durée de ce moment, mais un moment où on s'arrête, on se tient devant Dieu. Daniel lui priait 3 fois par jour. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait, et invoquait son Dieu, puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dire au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Mais lui, Daniel, ça ne l'a pas désorienté. Ses habitudes, il les a gardées. Il ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem. Alors on peut comprendre que Jérusalem, il n'en a que le souvenir. Il ne reverra plus jamais Jérusalem. Il a été enlevé quand il était jeune garçon. Alors ouvrir les fenêtres sur Jérusalem, c'est pas une orientation d'ordre spirituel. Pour lui, c'est sentimental, c'est son souvenir. Mais spirituellement parlant, 3 fois par jour, il prie. Et il loue son Dieu. Et Dieu va lui parler, Dieu va lui montrer des belles choses. Tant et si bien que, aujourd'hui encore, quand on lit certaines prophéties de Daniel, qui concernent les temps de la fin, on a du mal même à les comprendre, on est obligé de les comparer avec l'Apocalypse. Comme pour montrer qu'un jeune homme devenu plus vieux avec le temps, complètement enlevé de son pays, expatrié, amené captif, mais qui se tient devant Dieu, Dieu va lui montrer des choses extraordinaires. Voilà. Habacuc, il dit, ben moi j'étais à mon poste. Et Dieu m'a parlé. J'étais à mon poste. C'est Habacuc 2. Habacuc, chapitre 2. Alors, pour trouver Habacuc, c'est juste après Nahum. Ça aide, hein? Voilà. Alors, pour les moins doués, vous allez dans l'évangile de Matthieu, et vous revenez en arrière de ça. Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors, où c'est une expression? Où il y a quelque chose là? Parce qu'on ne dit pas je vais voir ce qu'il va me dire. Je vais entendre ce qu'il va me dire. C'est juste. Parce que des paroles ne se voient pas. Alors, soit c'est une expression qu'on utilise nous encore aujourd'hui, hein, ben, je verrai bien ce qu'il va me dire. Hein. On le dit comme si on pouvait voir des mots. Ou notre expression, c'est une chose, et là, ça n'est une autre. Je vais voir ce que Dieu dit, parce que quand Dieu parle, il montre des choses. Que la lumière soit, la lumière fut, les mots et la réalité ne font qu'un. Voilà. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais. Attendre la réponse de Dieu quand on est dans une situation importante, c'est incontournable. Si on fait l'économie d'attendre la réponse de Dieu, on part, j'allais dire à l'aventure, non, on part à l'aveuglette. Parce qu'on ne sait pas s'il faut partir vers la droite, s'il faut partir vers le centre, s'il faut partir vers le milieu, s'il faut carrément faire demi-tour, je ne sais pas. Tant que Dieu ne m'a pas parlé, alors que je lui ai demandé quelle direction je dois prendre, si je n'attends pas sa réponse, je vais partir à l'aveuglette. Et en général, quand on part à l'aveuglette dans le domaine spirituel, on ne prend jamais la bonne orientation. Voilà. Parce que la bonne orientation, elle va s'éclairer. Du coup, si elle ne s'éclaire pas, on ne la voit pas et on ne la prend pas. On va en voir d'autres qui ne sont pas les directions de Dieu. Alors je ne sais pas si quelqu'un a prié pour que Dieu lui donne une direction précise. Eh bien, peut-être qu'il ne faut pas bouger en attendant la réponse de Dieu. Voilà. Et si la réponse est de Dieu, c'est « ne bouge pas », alors il ne faut surtout pas bouger. Voilà. Être à son poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et Dieu va lui dire « Mon juste vivra par la foi ». Verset 4, c'est la fin du verset, et qui sera repris dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Hébreux. « Mais le juste vivra par sa confiance en Dieu ». Si je fais confiance à Dieu et que je lui demande de me diriger, alors j'attends qu'il me réponde. C'est une question de confiance. La foi, c'est le même mot que confiance. C'est une question de foi, c'est donc une question de confiance. Si vous faites confiance à Dieu, attendez qu'il réponde et ne bougez pas avant. Voilà. Veiller nous permet de tenir dans les moments difficiles. Jésus dira, mon âme est triste jusqu'à la mort, veillez avec moi. Et c'est important dans les moments difficiles que nous pouvons être amenés à traverser, même les plus durs de notre vie, de ne pas négliger le fait de se tenir devant Dieu et de chercher sa volonté. Et le Seigneur va prier, va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et on sent que dans ce temps de prière, il y avait une confrontation entre la volonté du Père d'accomplir l'œuvre du salut et ce que pouvait ressentir Jésus devant le prix à payer. Eh bien, quand on se tient devant Dieu, à un moment donné, nous allons connaître et comprendre ce que Dieu veut. Et qui ne sera peut-être pas exactement ce que nous on avait prévu. Il y aura donc confrontation. Et c'est bien qu'il y ait confrontation. Certaines personnes le vivent mal. Moi je dis que c'est une garantie de notre liberté. Dieu accepte, me permet, et même il ne peut pas en être autrement, de m'opposer à lui. C'est la preuve que je suis quelqu'un de libre. Que je suis quelqu'un de conscient, je ne suis pas dirigé, je ne suis pas manipulé. J'ai mon point de vue, j'ai mes réflexions, j'ai mes idées, qui ne sont pas les idées de Dieu et les pensées de Dieu. C'est pour cela qu'il va y avoir confrontation. Mais en même temps, c'est la démonstration que je suis un être libre, autonome. Celui qui dit toujours oui, 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 c'est mouton de Panurge. Ce sont ceux que l'on dirige comme ça. Et Dieu nous appelle des brebis, mais pas les moutons de Panurge. Il nous appelle à des brebis, c'est-à-dire à suivre le berger. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Dans des moments de notre vie, parfois, nous arriverons à nous opposer à Dieu. Il ne faut pas être gêné de s'opposer à Dieu. Il faut simplement le faire avec respect, parce qu'il est Dieu, tout simplement. Mais dire, Seigneur, j'ai du mal, ce n'est pas irrespectueux, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à accepter, j'ai du mal à te suivre, j'ai du mal à obéir. J'ai du mal à intégrer ta volonté. Et pourtant, je sais qu'elle est meilleure que la mienne, mais j'ai du mal à l'intégrer. Eh bien, c'est une garantie de notre liberté. Et en même temps, de notre engagement. Eh oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller jusqu'à la croix pour le salut de l'humanité. Si tu n'y vas pas, l'humanité ne sera pas sauvée. Si tu y vas, il va falloir payer le prix. Mais c'est toi qui décides. Voilà. Et dans tous les domaines de notre vie spirituelle, c'est nous qui avons le mot de la fin. C'est nous qui avons la décision finale. Veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation, dira le Seigneur dans la même nuit, parce que la chair est faible. Et parfois, nous aurions envie de trancher la question et de dire, non, je vais faire comme ça. Mais comme ça, ce n'est pas spirituel. Comme ça, c'est ce qui me convient, c'est ce qui m'arrange. C'est ce qui règle apparemment la question, mais ça ne règle rien du tout. Voilà. Veillez, c'est arrivé jusqu'à la Pentecôte. Tous d'un commun accord, veillez et priez. Dans la chambre haute, et ils étaient 120, et dans le même lieu, et la bénédiction de Dieu est venue veiller pour recevoir l'onction de l'Esprit, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, veiller pour recevoir les dons spirituels, la pensée de Dieu. Voilà. Il faut se tenir devant Dieu. Il y a eu des dons spirituels les dimanches précédents. Il y aura des dons spirituels les prochains dimanches, et à la limite, pourquoi que le dimanche, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pourquoi y a-t-il des dons spirituels? Parce que des hommes et des femmes se tiennent devant Dieu et disent, Seigneur, ben, si tu veux te servir de moi pour parler, sers-toi de moi pour parler. Voilà. Vivre la Pentecôte parce que l'on veille. Pour progresser et grandir et comprendre. Je suis sûr qu'on va tous veiller après. Acte 10, et on va terminer avec cela. Acte 10 et ensuite acte 16. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert. Et on connaît tout le récit du chapitre 11 qui va l'amener chez Corneille. Mais dans ce temps de prière, dans ce temps de veille, il se tient devant Dieu, il progresse, il grandit, il comprend. Et il va devoir continuer de veiller parce qu'il n'a pas fini de progresser, de grandir et de comprendre. Et bien pour nous, c'est pareil. Si nous voulons spirituellement progresser, grandir, comprendre, être utile dans la main de Dieu, il faut de temps en temps veiller. Il faut prier, il faut se tenir devant Dieu. Parce que le Seigneur a certainement encore des choses à nous montrer. Et on va terminer avec acte 16. Veiller, c'est se donner les moyens de renverser des situations. Et de les gagner. Acte 16. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient tout à coup, et on connaît la suite. La situation change, tout à coup. Pourquoi? Parce qu'ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Voilà. Veiller, c'est nous mettre dans une position et dans une attitude spirituelle. Du coup, le jeu de mots, on peut le faire de veille. Et quelque chose qui est en veille, quelqu'un qui est en veille, de suite se réveille. Voilà. Il y a des unités d'élite qui sont toujours en veille. Il y en a toujours qui sont en veille. Et il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand, clac, ils sont prêts, parce qu'ils sont en veille. Et pour nous, c'est pareil, soyons en veille spirituelle, en nous tenant devant Dieu, nous approchons de Dieu, à l'instar de Moïse, à l'exemple de Daniel, au travers de sa parole et au travers de visions, Dieu va nous montrer des choses cachées. Comme Habacuc, j'étais à mon poste et Dieu m'a dit, mon juste vivra par la foi. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, va tenir dans les moments difficiles et aller jusqu'au bout. Les disciples, le jour de la Pentecôte, eh bien, ils vivent tous l'onction de l'Esprit. Pierre progresse, grandit, comprend. Et l'apôtre Paul et Silas, eh bien, la situation au début de la nuit était d'une certaine manière. À la fin de la nuit, ça n'avait plus rien à voir. Le geôlier est baptisé, sa famille avec. quelle nuit. Voilà. Donc quand on se tient en veille devant Dieu, c'est extraordinaire. C'est une position spirituelle qui est extraordinaire.